La langue chinoise, une station-service, récidiviste, c'est la règle de 3 de Alexandre Labru. Né à Bordeaux il y a 46 ans, il étudie la langue chinoise dès la classe de 4e. Il poursuit son apprentissage après le bac et en 1996, il effectue son premier séjour en Chine. À l'époque, il a 21 ans, il décroche un stage de 8 mois comme contrôleur de qualité en usine. Il se retrouve dans le nord du pays où il doit vérifier la conformité de coton-tige en bois. Une mission susceptible de changer la face du monde et dont l'importance cruciale n'échappe évidemment à personne. « Je veille au grain du conduit auditif de l'humanité, je lutte contre sa surdité », écrit-il. Son domaine de compétence s'élargit aux cure-dents, aux casseroles, aux ouvre-boîtes, épluches, légumes, spatules et passoires. Une litanie d'objets qui lui rappelle sans doute le système des objets, livre publié en 1968 par l'un de ses maîtres à penser, Jean Baudrillard.
Il me semblait que l'objet était doué de passion presque, qu'il pouvait avoir une vie propre et que quelque part il avait une autonomie et peut-être même une capacité de se venger, enfin en quelque sorte quoi.
Dans son premier roman, Chronique d'une station-service, le personnage principal aurait aimé être Baudrillard. Pompiste philosophe à Pantin, au nord-est de Paris, il observe ce qu'il appelle l'apparente inertie du quotidien. Dans une réflexion sur la pompe numéro 5, il écrit « Le chiffre 5 en Chine, c'est le chiffre du wu, du rien, du vide. À l'origine et à la fin de toute chose, c'est le chiffre du non-agir, du non-être, du pompiste. »
La station-service est aussi un sujet faussement pas sérieux. Parce que c'est un sujet aussi où tous les enjeux de notre société se croisent, enjeux écologiques, politiques, culturels, sociaux.
Face à la Chine, Alexandre Labruf se qualifie de récidiviste. Il y a vécu de 96 à 2001. En 2008, il y retourne pour ouvrir une alliance française à Hangzhou. Enfin, en 2019, il accepte le poste d'attaché culturel à Wuhan. En décembre dernier, quelques semaines avant le confinement, le narrateur de son récit, Un hiver à Wuhan, roule sur l'autoroute et voit une publicité pour la Chine. Publicité qui annonce « Nous créons l'avenir dont rêve l'humanité ».
Et il est avec nous, Alexandre Labruf, un hiver à Wuhan, chez Vertical. Combien d'habitants à Wuhan ?
11 millions.
11 millions, un petit bled, quoi, en somme.
Voilà.
Un bourg.
Petit village.
Revenons sur 1996, où vous êtes arrivé en Chine pour la première fois. En somme, depuis 25 ans, vous passez des périodes relativement longues dans ce pays, et vous avez assisté à sa mutation, et vous avez été le témoin privilégié, et devenu totalement cinglé, de l'envers de l'usine du monde occidental, quand on est contrôleur qualité.
Oui, j'ai vécu le pire de la mondialisation, ce que j'appelle moi le Moyen-Âge de la mondialisation sauvage, en fait. Je suis parti déjà terrorisé par un prof de chinois qui disait qu'on allait arriver à rien en France. Je suis parti en stage, en plein milieu de mon année scolaire, contrôler les produits, en fait. Un produit dont on a entendu le nom, là, ça sert à un poème ou un inventaire à la Prévert. Et du coup, effectivement, pourquoi le pire de la mondialisation? Parce que déjà, les ouvriers sont à moitié adolescents, entre l'adolescence et l'âge adulte. Ils travaillent 14 heures par jour, ils sont payés 20 euros par mois, ils travaillent 6 jours sur 7. Et je vois aussi des usines déglinguées, entourées de produits toxiques, de décharges, de karaoké. Et donc, c'est ce
que... Et puis des gens qui vous empêchent de mener à bien votre mission, qui vous envoient des prostituées, qui vous donnent de faux rendez-vous, qui vous saoulent. Enfin, il y a
on m'envoie la police aussi.
Qui vous rend paranoïaque.
La fausse police, oui.
Mais qui vous alerte sur ce que représente cette usine.
C'est vrai, paranoïaque. Et c'est vrai que j'ai commencé le chinois en 87, en sortant de la forêt, parce que j'ai vécu dans les Landes. Mais du coup, oui, c'est une longue progression vers la paranoïa, enfin de l'autisme à la paranoïa. Et du coup, je rentre dans une sidération, la sidération de la Chine. Je rentre dans une hallucination. La Chine est un produit hallucinogène.
Claude ?
Des années après, vous retrouvez la Chine avec une odeur d'éther qui flotte dans l'air, une pollution incomparable à celle de la France, et on ne voit jamais le ciel. Quand je lisais votre livre, je me disais, retrouvant vos péripéties de contrôleur qualité, ces gens-là incapables de faire des produits de qualité, mais très forts pour masquer cette réalité, au fond, et je saute dans l'actualité, je ne leur confierais pas la charge d'un virus dans un laboratoire, même si je sais que c'est une théorie complotiste. Est-ce qu'il y a un lien entre ce qui nous est arrivé à nous tous et ce qui vous est arrivé à vous ?
Il y a plusieurs questions dans votre phrase, il y a d'autres questions. La première, c'est l'incapable, des gens incapables. Moi, les Chinois ne sont pas incapables, ils ne comprennent simplement pas l'usage de l'objet qu'ils sont en train de fabriquer. Quand je parle des coques plastiques, ils ne savent pas à quoi ça sert. C'est un contenant d'œufs de Pâques que je n'arrive pas à contrôler, qui arrive rayé en France. Bon, bref, mais Déjà, ils ne sont pas incapables. L'esthétique, ils n'arrivent, ils comprennent. Enfin, l'esthétique n'est pas importante. Ce qui est important, c'est l'usage. Ensuite, oui, quand j'apprends qu'il y a un laboratoire à Wuhan, je rencontre ce fameux Français qui travaille pour ce laboratoire. J'ai peur, je me lave les mains cette fois. Jean-Claude.
Le laboratoire, c'est les maladies.
Laboratoire, je me dis hérésie, moi ça me renvoie directement en 96 où je contrôlais les usines, j'arrivais jamais, où je voyais, par exemple, on parlait de coton-tige, on m'a mis des coton-tiges dans les roues, enfin des bâtons dans les roues pour que je puisse contrôler, pour que je ne puisse pas contrôler. Et du coup, ces coton-tiges le coton était jaune, on verse des produits toxiques dedans, enfin pour le blanchir, le bois est moisi, et là c'est pareil, donc hérésie. Et ensuite, ensuite, je me dis oui, il y a quelque chose qui cloche en fait. Et en plus, je sais qu'il y a une partie opaque de ce laboratoire qui échappe parce qu'il y a une collaboration franco-chinoise qui échappe aux Français. Mais le virus arrive en décembre et c'est une succession d'herpocalypse en fait. Moi, je pense que c'est une crise environnementale qui ne dit pas son nom.
C'est ce que vous dites. Vous évoquez le marché des animaux et vous évoquez le fait que la pollution favorise la propagation virale.
Oui, c'est l'épidémiologiste.
La zoonose.
Jean-Claude G. qui me dit ça, effectivement. J'essaie de discuter avec lui du lien entre la pollution et l'épidémie.
Et le virus. Ouais. Évoquons Wuhan. Aujourd'hui, 9 mois après l'émergence du virus.
À quoi ressemble Wuhan aujourd'hui? Déjà, il y a un symbole assez fort, c'est qu'il y a 12 jours, Wuhan a accueilli son premier vol international depuis le mois de janvier. Les images de l'atterrissage, on va les voir, elles ont tourné en boucle à la télévision publique, tout comme celles qui montrent que la vie et peut-être même la fête ont repris dans l'épicentre donc, de cette pandémie. On témoigne la fête de la bière, ça s'est déroulé à la fin du mois d'août à Wuhan, donc elle a rassemblé plusieurs dizaines de milliers de personnes dans un parc, et puis surtout, il y a eu cette gigantesque fête techno, rave party, je ne sais pas comment on peut dire, qui s'est déroulée dans une piscine dont on voit à nouveau les images. Ces photos ont été très largement diffusées partout dans le monde, très commentées. Certaines de ces clichés ont indigné, on comprend assez bien pourquoi. Et pourtant, on voit bien que le pouvoir chinois continue à faire de Wuhan une vitrine de la victoire chinoise contre le virus. Ça, c'est pour la galerie, c'est pour la photo. Comment est-ce que ça se passe? Quel est le moral des troupes, si j'ose dire? Il y a eu 76 jours de confinement et puis un arrêt strict de l'économie. Ça a été dur pour la population.
Alors, on est dans une guerre de modèles, on est dans presque une guerre de civilisation. La Chine a un horizon, c'est 2049, régner, être la boussole de l'humanité. Et là, la victoire contre le virus, c'est contre les États-Unis, en fait. Parce qu'elle regarde en miroir, derrière le miroir, il y a les États-Unis. C'est une mise en scène de la puissance chinoise à contrôler le virus. Le moral est au beau fixe, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus détendu que quand j'avais quitté la Chine en janvier, quand j'étais... Mais la moitié des gens portent le masque. Pourquoi? Quand je pose la question, pourquoi?
Eh bien.
Parce que la moitié des gens, ou une certaine partie de cette moitié, n'ont pas confiance aux chiffres officiels. Mais juste pour revenir, moi j'étais halluciné aussi quand je suis revenu par l'essor de la digitalisation. Là aussi on est dans un autre enjeu.
En Chine, la dématérialisation,
tout à fait.
Vous l'évoquez, vous l'expliquez très bien.
Qui crée encore plus de pollution, mais c'est aussi qui crée un traçage de l'être. Et maintenant quand je reviens de Wuhan, qu'est-ce qui traçait la santé? Quelle est la santé physique?
Les données donc.
Les êtres sains. Et qu'est-ce qui sera tracé plus tard, et ça va être le prochain enjeu du pouvoir chinois, c'est la santé psychique.
Vous y retournez dans 8 jours.
Oui, c'est ça, exactement.
Sans crainte.
Sans peur.
Sans peur. Alexandre Labru, formidable récit, un hiver à Wuhan, aux éditions Verticales.